L'image de la jeune femme, si rapidement entrevue, s'imposa de nouveau à Gorgio. Vivre et gloire, se rappela-t-il, et il hâta le pas. Il faisait une chaleur torride. Il pensa au corps transpercé de cette jeune femme étendue sous la dureté du soleil, puis aussitôt au vieil homme agenouillé qui l'éventait avec un morceau de carton. Au moment où il avait tourné les talons pour chercher du secours, une personne âgée était apparue. Celle-ci, à bout de souffle, avait le visage défait. En l'apercevant, elle fut prise de panique. Il devait sans doute provoquer la terreur, même quand il ne le souhaitait pas. À présent, il fallait qu'il se hâte pour ramener l'ambulance. La jeune femme, dont le beau visage blême ne cessait de le poursuivre, était à l'agonie. « Vivre et gloire !» se répétait-il. Avait-il suffisamment conscience du prix de la vie jusqu'à ce jour ? L'ancienne photo de sa mère en pleine jeunesse lui revint en mémoire. Elle était belle, elle aussi. Les visages de ces deux femmes se touchaient, se rejoignaient, se confondaient. Il éprouva pour l'une et l'autre une profonde compassion. Gorgio avait laissé sa mère sans nouvelles depuis plus d'un an. Il en éprouva un remords cuisant et prit ses jambes à son cou. Il ne savait plus pour laquelle de ces femmes il courait si vite. À travers sa chemise blanche qui se gonflait à chaque pas, le soleil mordait sa peau. Il défit les premiers boutons, essuya avec un large mouchoir sa poitrine velue, ses aisselles, tout en continuant de courir. Il ne s'était pas rasé depuis 48 heures. La sueur s'insinuait sous les bords de sa casquette, glissait sur ses tempes, ses joues, sa nuque. Il pensa à la douche du soir, dans la confortable salle de bain au carrelage vert. Par bonheur, l'eau y coulait toujours. Gorgio s'élance, court, se répète, vivre et gloire, comme un refrain. Il n'avait jamais songé à la vie de cette façon-là. Il tuait, sur ordre, ou bien par fascination de la mort. Arrivé à la limite du quartier, il interpella un marchand de légumes qui s'apprêtait à fermer sa boutique. « L'hôpital est toujours par là ? Je n'en sais rien. Moi, je boucle tout, je m'en vais, je quitte. Le pays est devenu invivable. Il est pourri en loques, ce pauvre pays. L'hôpital n'a pas été bombardé ?» Le boutiquier croisa ses bras, fixa Gorgio en le toisant avec mépris. « Pour qui te prends-tu avec ta mitraillette ? Tu ne me fais pas peur. » Ni toi, ni tes bandes d'assassins. Vous me dégoûtez tous. Vous l'avez foutu en l'air, votre pays. Tout le monde se hait à présent. Tu me fais honte. Va-t'en. » Il y a quelques heures à peine, Gorgio se serait emporté et dans une explosion de colère, il aurait peut-être tiré sur cet individu qui le narguait. Cette fois, il ne pensait qu'à une autre chose, arriver le plus rapidement possible à l'hôpital. Le marchand hurlait de plus en plus fort. Comme Gorgio ne répondait pas, il lui lança d'abord en pleine figure, puis en le poursuivant, des prunes, des citrons, des pommes, des tomates encore à l'étalage. « Salaud, fils de salaud, assassin, criminel, meurtrier » braillait-il. Les tomates éclataient sur la chemise blanche, on aurait dit des flots de sang. « Vivre et gloire !» se répétait Gorgio, redoublant de vitesse. Marie ne bouge presque plus, Marie respire à peine. Pour lui parler, il faut utiliser peu de mots, des mots simples, des mots essentiels, qui vont du cœur au cœur, des mots qui se glissent petit à petit avec leurs consonnes, leurs voyelles, dans le corps et la pensée de Marie, des mots qui deviendront la matière de ce corps, le ferment de cette pensée, des mots à lent parcours qui traverseront le conduit auditif, atteindront la caisse du tympan, percuteront les osselets, ensuite le rocher, des mots qui se frayeront lentement passage dans le labyrinthe de l'oreille, des mots aimés, des mots aimants, ressentis, agrippés à l'espérance, des mots vrais même s'ils mentent, des mots forgés d'amour et de promesses même s'ils simulent, des mots réels et fictifs, des mots pour vivre et pour rêver. Anya imagine le désespoir qu'elle aurait ressenti si Anton n'avait pas su combien elle l'aimait. Elle serait rentrée en lutte contre cette mort qui la narguait, elle se serait arc-boutée pour lui faire front au prix de nouvelles souffrances, elle aurait lutté pour lui faire obstacle jusqu'à l'arrivée d'Anton. Elle compare sa mort prochaine à cette mort-ci. Si tout se passe selon son désir, elle s'éteindra dans les bras d'Anton, elle acceptera cette navigation vers le dernier port, un glissement consenti de tout ce fleuve de l'existence se déversant puis se dissolvant dans l'inconnu. « Il t'attendait, » souffla Anya dans l'oreille de Marie avec tant de conviction qu'elle finissait par y croire elle-même. « je l'ai vu tout de suite reconnu. Nous nous sommes parlé, il sait que tu venais à lui, combien tu l'aimes, il me suit, il sera bientôt ici auprès de toi. » Elle l'a tutoyé sans effort. Chacun de ses mots se transformait en image heureuse, Marie souriait. Elle avait perdu la notion du temps, on pourrait ainsi la maintenir dans l'illusion jusqu'au bout. « Il vient, il arrive, il est en route. » reprit Anton. Le visage presque éteint ressuscita, la pâleur s'estompa autour des yeux cernés de bleu, s'éclaircissait. Anya se retourna vers son époux. Elle m'entend, n'est-ce pas? Rassure-toi, elle a tout entendu. Anya transpire, la torsion de son dos courbé en avant lui est pénible. Elle applique ses mains sur ses reins, elle craint que ses forces ne l'abandonnent. Anton prend le relais. Bientôt Steph sera là, je t'avertirai dès qu'on l'apercevra au bout de la rue. Anton et Anya échangent un regard complice. Dans l'autocar qui cahote, pressé, perdu parmi la foule des passagers, Steph se demande de quelle façon il passera les quelques jours qui lui restent avant le départ. Il n'avait pas prévu ce déroulement. Il s'était rendu à l'endroit indiqué en confiance. Il avait cru à cet amour. Il avait été ridiculement crédule. Son but à présent était de retourner au lieu des fouilles. Le site était clos depuis plus d'un mois, d'amasser ses affaires et les documents déposés chez un collègue. Ce dernier, lassé de se croiser les bras, avait abandonné femme et enfant pour aller se battre. Steph fut étonné de le voir choisir le camp qui prônait un nationalisme exacerbé. En partant, Taras lui avait même donné un revolver. Pourquoi faire? Je ne m'en servirai pas. Pour te défendre, pour défendre les tiens. Jamais je ne me servirai d'une arme, jamais je ne tuerai. Taras le lui avait fourré d'office dans sa poche. Garde-le en souvenir de moi, et puis on ne sait jamais. Tu me déçois. Je te croyais. Taras haussa les épaules et s'éloigna à grands pas. Steph ne savait pas où et comment se débarrasser de l'arbre. Hostile à ce conflit où trop d'intérêt lui paraissait en jeu, Steph avancerait son départ autant que possible. Les antagonismes, les disparités pouvaient se résoudre autrement. Guidés par des pulsions haineuses, les hommes se précipitaient vers les guerres qui ne résolvaient rien. Après ces déchaînements venait l'oubli, les mêmes conditions d'injustice se reproduisaient, tant de malheurs ne leur avaient rien appris. Les hommes se plagiaient, se singeaient, comme s'ils ne pouvaient échapper à leur propre nature, comme s'ils étaient contraints à se pasticher à jamais. Connaissant grâce à son métier les déroulements de l'histoire, Steph questionnait l'histoire. Qu'était-elle d'autre depuis les origines, que violence, qu'instinct prédateur, que désir de domination? Déjà la bactérie ne se perpétue qu'en absorbant, qu'en dévorant l'autre. Était-ce une nécessité, une fatalité gravée dans nos cellules? De peuple à peuple, de famille à famille, qu'était-elle d'autre la vie que bataille où la vanité, l'orgueil, la course au pouvoir et à ses avantages devenaient les leviers de l'existence? N'y aurait-il eu Shakespeare, Eschyle, Euripide, Molière, Dostoïevski et d'autres si nous n'appartenions qu'à une tribu sage, bienveillante, pacifique? Sa poche était large, profonde, le revolver avait glissé jusqu'au fond. Steph en oublia sa présence. Steph repensa à sa relation avec Marie. Aucun d'eux n'avait su créer des liens tranquilles, apaisants. Il leur fallait des orages. Concorde et trêve réclamaient, semble-t-il, dans tous les domaines, de brusques et soudaines dramatisations. Steph s'en voulait de ces colères auxquelles Marie rétorquait sur le champ. Parfois, il la souhaitait plus souple, plus rassurante, plus préoccupée de lui plaire, plus engagée dans la même voie que la sienne. « Tu deviens hégémonique, disait-elle. Tu as de ces mots. Ton irréductibilité m'agace, disait-il. Tu as de ces mots. » Ces expressions barbares les faisaient subitement éclater de rire ou bien durcissaient le conflit. « Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. » Il lui réprochait son goût de la solitude, son refus de l'autorité, son inaptitude à l'exercer vis-à-vis des autres, sa façon d'aller vers les gens par inclination, jamais par réflexion. « Ton seul levier est le sentiment, tu te feras toujours berner. » Dans cet autocar, Steph se sentit captif, pris dans un étau, serré de toutes parts, bousculé par cette foule qui s'agglutinait autour de lui. La chaleur était intense, le chauffeur débrayait, embrayait sans arrêt, la foule chavirait d'un côté puis de l'autre, le rejetant, le poussant dans tous les sens. Sur le point d'étouffer, une fillette s'agrippa à ses jambes en hurlant. Il extirpa de la mêlée, la posa à califourchon sur ses épaules sous le regard reconnaissant de la jeune mère qui tenait déjà un nourrisson dans les bras. Il songea à Marie, aux enfants qu'ils auraient pu avoir. Pourquoi avait-il pris si rapidement le parti de la perdre? Peut-être qu'il avait été mal renseigné sur la tranquillité de ce quartier qu'elle devait traverser pour le rejoindre. Peut-être n'avait-il écouté que son amour propre une fois de plus, peut-être était-elle en danger. Steph chercha à bouger. Dans cette foule compacte, il reprit conscience du revolver qui le gênait dans ses mouvements. Craignant qu'un des passagers ne s'aperçoive qu'il portait une arme et que celui-ci le signale aux autres, il détacha l'écharpe qu'il portait autour du cou, le glissa dans sa poche pour envelopper le revolver. Puis cela le prit d'un seul coup. Il s'entendit crier dans la direction du conducteur. Où est le prochain arrêt ? Sa foi se perdit dans le vacarme, tambourinant de ses deux poings sur sa tête. La petite fille joignit ses criailleries à la question qu'il répéta encore plus fort. « Le prochain arrêt, c'est où ? Où ? Où ? Où ?» hurlait la fillette, tambourinant de plus belle. Le chauffeur finit par l'entendre d'une voix tonitruante. Il lança « Le plus tard possible !» Se tournant vers les passagers qui se pressaient autour de lui, le conducteur reprit « Il faut d'abord sortir de ce merdier. J'entends tirer autour de nous, il va falloir faire vite. Surtout ne s'arrêter sous aucun prétexte si on veut échapper au bal. Roulez, roulez sans regarder derrière soi. Là-bas de l'autre côté est le salut, je l'espère. Du moins, c'est le seul possible. » Son message finit par atteindre Steph. L'autocar ne s'arrêterait plus, le visage de Marie s'amenuisait, s'éloignait. « Elle ne veut pas de moi et moi je ne veux plus d'elle. » trancha-t-il. Mais ce même visage se recomposa, se rassembla comme un puzzle avec ses morceaux disparates, un visage aussi blême qu'il le devenait au cours de leur dispute. Steph ne pensa plus alors qu'à quitter l'autobus, qu'à courir en sens inverse à toute vitesse à sa rescousse. La foule formait une muraille de plus en plus compacte et que faire de l'enfant juché sur son dos ? Avisant un jeune homme à la puissante carrure, il percha la fillette sur ses épaules-là sans rien demander. Amusé de ce qu'elle prenait pour un jeu, l'enfant applaudit avant de se mettre à ébouriffer de ses deux mains l'épaisse chevelure de son nouveau porteur. D'abord surpris, celui-ci se laissa faire sans protester. Durant ce temps, Steph poussa des coudes, bousculant la mêlée, cherchait l'issue la plus proche. Ignorant sa décision, accablé et rompu de fatigue, les réfugiés se laissaient faire, s'écartaient, reculaient, se pressaient les uns contre les autres pour lui ouvrir le passage. Sur le flanc de l'autocar, la portière centrale était bloquée par un amas de vieilles valises hâtivement ficelées de boîtes de carton. L'autre sortie à droite du chauffeur paraissait inaccessible.